mémorable. Cette semaine, un face-à-face Maurice Clavel et Philippe Solers, cinq entretiens arbitrés par Jacques Pogam en 1976 pour France Culture. Aujourd'hui, premier entretien, mai 68.
Bonjour, parti pris, une série spéciale, 5 face-à-face, Philippe Solers, Maurice Clavel. Je vous propose cette semaine 5 face-à-face Maurice Clavel-Philippe Solers. C'est un peu le fruit d'une coïncidence. Dans son dernier livre, Maurice Clavel a eu la gentillesse d'indiquer qu'il avait écrit son Ce que je crois, d'où son dernier texte Dieu et Dieu nom de Dieu est pratiquement tiré, car ça en est la suite substantielle. Il l'avait écrit donc Ce que je crois à la suite d'une émission que nous avions faite ensemble il y a de ça maintenant 2 ans, c'était en août 1974. Et il y a 2 mois, au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui sur Antenne 2, Philippe Solers attaquait très violemment les idées de Maurice Clavel, et peut-être plus encore l'idée que l'on pouvait tirer de tout ce qu'avait fait Maurice Clavel. Alors j'ai pensé qu'étant donné qu'il s'agissait de deux hommes honnêtes intellectuellement, deux hommes passionnés, indépendants de tous les clans et de tous les partis, ce serait peut-être bon de les mettre face à face. Face à face, organisé autour de 5 thèmes, mai 68, la crise du marxisme, le renouveau de la spiritualité, le christianisme est-il la vraie religion, et spiritualité et manipulation politique. Premier débat donc aujourd'hui, mai 68. Philippe Solers, une question, une remarque pour commencer?
Je n'ai pas attaqué Maurice Clavel très violemment. J'ai essayé...
Il me faudrait des clartés là-dessus, justement, parce que...
J'ai essayé simplement de poser une question qui me paraît grave aujourd'hui, parce que je crois qu'elle a une importance politique et philosophique. Et la question que je pose, à laquelle je demande une réponse, puisque Clavel est là, c'est la suivante. J'ai dit simplement, voilà, il y a eu 68, et ce mythe, qui est un mythe désormais mort, ou du moins que tout le monde essaye de faire mourir, est en fait un spectre contre lequel tous les états-majors politiques, tous les appareils, tous les partis s'acharnent pour essayer de l'éloigner de nous. Je pose la question à Clavel comme ceci. Est-ce que, en réaffirmant très vivement que mai 68 ouvre sur une question transcendante, sur la question de la transcendance même, est-ce qu'il ne croit pas qu'il participe volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, est-ce qu'il ne participe pas de cette conjuration de ce spectre? Voilà. C'est ça ma question.
Bon, alors d'abord, une déclaration liminaire. Philippe Solers, je ne vous connais guère, je n'ai pas assez étudié votre œuvre, avec laquelle pourtant de loin je sympathise. D'autre part, le jour où à la télévision française, lors d'un autre face-à-face qui avait plus de public encore que celui-là, et où j'ai dit « Messieurs les censeurs, bonsoir », j'ai reçu une dizaine de milliers de lettres ou de télégrammes, parmi lesquels il y avait le vôtre, et le vôtre, je l'ai sorti du lot, du moins dans mon cœur. Il m'a touché si profondément que je considère que vous ne serez jamais votre ennemi, même si je dois ou si j'ai pu devenir le vôtre. Par conséquent, vous voyez, de ce point de vue-là, je ne veux pas afficher de charité chrétienne. Non, c'est une affaire de cœur personnel. La partie n'est pas égale entre nous. D'autre part, vous m'avez questionné et je commence déjà par critiquer votre question. Et vous verrez que ma critique de votre question n'est pas tellement étrangère à mai 68. Vous avez dit... Est-ce que Maurice Clavel ne participe pas, consciemment ou non, involontairement ou non, à une opération de manipulation ou quelque chose comme ça? Alors là, je vous dis tout de suite non, et pardonnez-moi, j'ai envie de vous dire tout de suite merde. Parce que tout ce que vous dites là relève de la catégorie de l'objectivement. Subjectivement, on fait ceci, mais objectivement, on collabore à ça. C'est ce qu'on appelle, on fait le lead, on fait le jeu de... Alors ce sont des catégories dont justement beaucoup d'amis révolutionnaires issus de mai 68 et moi-même avons complètement marre. Qu'on nous classe comme on voudra, qu'on nous étiquette comme on voudra, et je vais peut-être vous répondre sur cette question préalable, méthodologique. par une parabole que je trouve admirable, une anecdote. Yves Montand, à la télévision, je l'aime et je l'estime beaucoup, vous aussi sans doute, interviewé, s'est laissé à dire, dans le courant d'une phrase, innocemment, « Eh bien oui, en quelque sorte, objectivement. » Et il s'est arrêté court. Et il a dit, en très gros plan à l'écran, « Non, pas objectivement, c'est un mot qui a assassiné trop de millions d'hommes. » Par conséquent, donc, faire le jeu de faire le leader, contribuer ou non, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas que je suis quand même, je suis beaucoup plus vieux que vous, vous le savez, je suis quand même assez grand et je crois avoir un peu les épaules de penser tout seul. Je ne me crois pas, si vous voulez, tellement récupérable. Bon, mais nous en parlerons peut-être plus tard, c'est après tout le sujet, si j'en crois le programme, de notre dernier débat. Maintenant, après cette préalable méthodique, il faut peut-être que je vous réponde sur le fond. Je suis tout à fait d'accord que tous les états-majors politiques s'emploient à conjurer le spectre de mai 68. Or, dans mon inspiration, dans tout ce que je représente, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je suis et j'essaie d'être le plus profondément fidèle à mai 68. Entendons-nous bien, ce n'est pas une fidélité d'ancien combattant à un cher souvenir, je n'ai pas été un héros titré des barricades. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas dire non plus mystiquement que je suis né ou que je suis re-né en 1968, encore qu'il y ait un peu quelque chose de cela. Je veux dire que ce jour-là s'est produit, et ça vous me l'accorderez peut-être, je l'espère, ces jours-là s'est produite une déchirure, une fracture, qui est celle non point d'une formule politique, mais d'une civilisation, d'une culture tout entière, d'un sol fondamental, nous en parlerons plus tard, mais cette fracture-là a, comment dirais-je, ouvert et libéré un espace à l'intérieur duquel je me suis mis, tenez-vous bien, à respirer, à penser, à vivre, et même, voyez-vous, à pouvoir vivre avec d'autres dans un espoir politique, au plus beau sens du mot, et non pas politicien commun, ce qui ne m'était pas apparu possible avant. Par conséquent, en un sens, je peux dire que tout ce que j'ai écrit, je le dois à mai 68. D'autre part, j'achève de répondre à votre question. Il paraît que ces temps-ci, à cause de mon dernier livre, Dieu est Dieu, nom de Dieu, je suis devenu l'homme à abattre d'une certaine catégorie d'intellectuels de gauche assez vaste, n'est-ce pas ? On me parle déjà de ce qui se prépare contre moi, de contre-attaques fulgurantes qui vont surgir. Je ne vois pas venir, mais enfin, je suppose qu'elles viendront. Et alors, attention, moi je suis prêt à toutes les contre-attaques, je suis plutôt bagarreur, mais je voulais leur dire, à ceux-là, si vous en faites partie, et même si vous en faites partie, ce dont je doute, je voulais leur dire, écoutez messieurs, bon, bagarrons-nous, tapons-nous dessus, mais sachez que je suis innocent. Et quand je dis je suis innocent, ça veut presque dire je suis ingénu et candide. Je ne veux pas vous attendrir, non, mais je veux dire que tout ce que j'ai fait depuis 1968, tout ce que j'ai écrit, je ne dis pas non plus que ça m'ait été dicté par l'Esprit Saint, nous en parlerons, mais en quelque sorte, je ne l'ai pas fait exprès. Ce qui m'arrive, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, il se trouve que ce que je crois est Dieu ont rassemblé un très vaste public, sans lequel, bien sûr, je ne serais pas l'homme à abattre, vous en conviendrez, bon. Mais, encore une fois, ce sont des livres que j'ai écrits en croyant qu'ils seraient lus par 5000 lecteurs et peut-être 10 000 parce que j'étais connu par le Nouvel Observateur. Donc, si vous voulez, il se passe quelque chose que je représente, plus ou moins, bon gré mal gré, dont il se pourrait qu'on m'appelle un peu leader, n'est-ce pas ? Peut-être encore que j'aspire à m'effacer, j'aspire surtout étant donné que j'ai beaucoup d'amis jeunes, très jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, comme vous, Solers, j'aspire à passer la main, n'est-ce pas ? Et ça, il était important que je le dise. Je voulais souligner donc ainsi mon innocence et dire que j'ai commencé à préciser les raisons de cette fidélité à mai 68 contre tout ce que j'ai appelé dans Dieu et Dieu les obturations politiciennes. Fracture, ouverture, et voilà qu'on essaie soudain d'obturer, de colmater. J'ai traité un cas particulier de cette obturation, c'est ce que j'appelle l'obturation du béton clérical de gauche. Il y en a d'autres sur lesquels nous serons peut-être d'accord ou en désaccord, mais j'ai parlé trop longtemps, je voulais savoir, Solaire, si j'avais commencé à vous répondre d'une manière qui vous satisfasse ou si votre critique doit rebondir.
Bon, elle va rebondir de la façon suivante. D'abord, vous avez cru que je me présentais en procureur et que j'aurais employé le terme d'objectivement, alors que subjectivement, vous auriez pensé autre chose, et que donc j'essayais de vous coincer dans une sorte de dialectique comme ça, manichéenne. Ça n'était pas mon objectif. Ce que je voulais dire, c'est que comme nous ne sommes pas là pour refuser la pensée, ni l'un ni l'autre, et donc pour nous dire merde, mais pour essayer d'avancer et de chercher la vérité ensemble.
Oui.
Donc je pense que le point important, c'est quand même d'essayer d'analyser ce qui, dans ce spectre de 68 auquel vous voulez, affectivement, avec quelle chaleur sensible, rester fidèle, ce qui, dans ce spectre, est aujourd'hui vivant. Qu'est-ce qu'on essaye d'anesthésier dans ce spectre et qu'est-ce qui fait de lui quelque chose qui est porteur de nouvelles valeurs? Qu'est-ce qui est apparu en 68? Vous avez dit pour vous une ouverture, une façon de se déchirer et de pouvoir vivre avec d'autres et de pouvoir penser ensemble un nouveau projet politique.
Qu'est-ce... Une nouvelle politique avant même tout projet.
Hein. Et peut-être même une nouvelle façon de faire de la politique. Une nouvelle façon avant tout de penser, de parler autrement.
Une révolution sans précédent ni modèle.
Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui, dans 68, a fait tellement événement? Est-ce que nous devons aujourd'hui l'analyser ou est-ce que nous devons essayer d'y répondre par des mots d'ordre? Moi, je serais plutôt partisan de l'analyse.
Il serait temps peut-être de l'analyser enfin. Car, enfin, il y a 8 ans qu'on l'analyse plus, Solers.
Voilà, c'est ça.
Il y a 8 ans que les livres ont paru, puis il n'y en a pas eu d'autres. Alors, voilà. Substituons-nous à eux, si
voilà.
Vous voulez.
Voilà, essayons, du moins. Bon. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il me semble que le terme de crise de civilisation, qui a été employé pour conjurer aussi le spectre de mai 68,
un petit peu, je vous l'accorde,
n'est pas un mauvais terme quand même.
Oui.
Car ce terme de crise de civilisation, qui nous renvoie au fond à ce que Freud, déjà avant la guerre, nommait un malaise dans la civilisation, cette explosion de 68 l'a mis en pleine lumière. Ce qui s'est passé là, c'est la possibilité, à mon avis, de commencer à revenir sur toute une histoire muette, à revenir et à faire surgir du fond de charnier l'impossibilité pour notre culture et pour notre civilisation, l'impossibilité d'entrer de façon contemporaine dans son propre siècle, d'être contemporaine d'elle-même. L'impossibilité où se trouve ce bizarre 20e siècle de se vivre en direct. L'impossibilité où serait cette société avec, encore une fois, la complicité de tous les appareils, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient ce que vous voudrez. Car ils en ont lourd sur la conscience et sur la pratique, ils en ont lourd sur les mains par rapport à cette histoire du XXe siècle.
Mmh.
Et l'impossibilité de poser, justement, la question du négatif de ce XXe siècle, qui est pour moi.
Soyez clair ici.
Qui est pour moi. Deux choses. L'aventure fasciste en Europe et la question stalinienne.
Oui.
On ne peut pas aujourd'hui...
Toujours d'accord.
...séparer l'analyse à fond qu'il faut faire, qu'il faut continuer à faire contre toutes les intimidations de la question stalinienne, d'une part, le fameux objectivement,
oui,
dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien à ça que vous faisiez allusion.
Oui, oui.
On ne peut pas séparer l'événement que représente le surgissement patient et absolument implacable de la vérité sur le goulag. Et au passage, je voudrais dire que c'est pas par hasard si c'est un écrivain qui finalement rend cette chose-là irréfutable et irréversible. On ne peut pas séparer cette question du stalinisme d'une autre interrogation, qui est une interrogation que la plupart des gens, la plupart des appareils politiques, et la plupart des responsables religieux et politiques veulent éviter, qui est la question de l'explosion fasciste en Europe. Je crois que ces deux choses sont fondamentalement solidaires. Parce que, en 68, ce qui se manifeste, c'est quelque chose qui prend à revers.
Oui,
tous ces silences,
j'ai souvent dit à contre-pied.
Tous ces cadavres dans les placards, et des cadavres empilés par millions les uns sur les autres, et qui fait surgir autre chose. Et je crois que ce qu'on est en train d'essayer aujourd'hui, d'assassiner dans 68, c'est tout simplement la mémoire de ce 20e siècle, purulent, terrible.
Oui.
Car quelque chose est apparu en plein jour, comme étant la face négative, le refoulement originaire, peut-être, pour parler comme Freud, de l'histoire elle-même. Ce qu'on essaie d'assassiner, c'est tout simplement la vie.
Oui, mais alors là, deux petites questions. Deux questions, je suis assez d'accord avec cette analyse. Il va falloir bien préciser ce que vous appelez la vie, et peut-être commencer à esquisser ce qu'aurait été, votre formule m'a frappé, un 20e siècle coïncidente avec lui-même. D'où venait ce décalage? Vous savez que mon interprétation est différente, mais nous y viendrons peut-être ensuite. Moi, je voudrais que vous clarifiez encore la
voie. Voilà, j'essaye d'avancer. Mon hypothèse de travail est la suivante. C'est que il se passe dans l'histoire, à la fin du 19e siècle, un certain nombre de pensées tout à fait en rupture avec une longueur d'onde millénaire. La première, c'est le marxisme, dont on ne va pas se débarrasser comme ça.
Mais dont je ne suis pas sûr, vous le savez, qu'elle soit tellement en rupture. Bon.
Ça, c'est justement toute une discussion.
On y reviendra demain.
Oui, mais il faut bien noter qu'il faut y revenir.
Oui, absolument. Mais je dis quand même, voilà, il s'est passé quelque chose qui s'appelle le marxisme, et il s'est passé quelque chose dont on ne parle jamais assez, qui est, par exemple, comme fait historique, la Commune de Paris. Oui. Car s'il y a bien quelque chose qu'a pu évoquer mai 68, c'est un autre événement historique que tout le monde s'est acharné à combattre et à effacer, qui est la Commune de Paris, à mon avis. Bon. Et il se trouve que, pour prendre simplement la dimension du marxisme, j'interpréterais, moi, la dimension du XXe siècle comme étant non seulement la trahison du marxisme par les marxistes eux-mêmes, sa défiguration, sa caricature...
Je vous attraperai fort là-dessus, car je prétends, je tiens à le dire tout de suite, qu'il n'y a pas eu trahison, mais c'est un explicitation sujet... normale, remettons cela encore.
C'est un sujet de discussion.
Oui. Hein.
Bon, et voilà. Donc j'estime, si vous voulez, que ce qu'on appelle le marxisme, de même peut-être que le christianisme aura été la mise en scène tout à fait fallacieuse et... contradictoire de l'événement singulier qu'aura été un phénomène religieux à une époque donnée, je dis que le marxisme est quelque chose qui s'est présenté comme une trahison du marxisme, de Marx. D'autre part, il se passe quelque chose d'encore plus important, à mon avis, c'est la découverte de Freud. Et cette découverte de Freud, dont on ne parle pas assez sur les conséquences qu'elle a de l'appréciation du phénomène religieux, du phénomène de la famille, et de même que le marxisme, avant tout, c'était une appréciation fondamentale du phénomène de l'État.
Exact.
Cette question du freudisme, qui suit dans le temps l'apparition du marxisme, là aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a blocage, il y a arrêt de la compréhension par la pensée humaine de cette découverte, et il y a sa diffusion fade, absolument privée de sa vérité, telle que, vous savez très bien, elle a été appliquée aux États-Unis. Ce qui m'a permis de dire un jour, d'essayer de dire un jour, que le marxisme s'était transformé en peste en Union soviétique et la psychanalyse en choléra aux États-Unis et que nous vivions désormais entre la peste et le choléra.
Psychanalyse, si je vous comprends bien, je me mets un peu à la place des auditeurs, une psychanalyse normalisée et normalisante.
Exactement.
Contre quoi, par exemple, en France réagit assez sainement et vigoureusement Lacan.
Exactement.
Seulement, nous allons nous heurter bientôt à un problème, cela peut faire peut-être transition. Un problème, c'est que dans la mesure où Lacan reprend sainement la tradition freudienne contre ses normalisations, et dans la mesure où on peut le considérer comme héritier de cet ouvrage fondamental dont vous parliez tout à l'heure, à si juste titre, « Malaise dans la civilisation », il faut quand même avouer que ce Lacan et ce dernier Freud, celui de Malaise, celui d'Eros et de Thanatos, etc., sont des gens politiquement pessimistes, c'est-à-dire sont des gens pour qui, en gros, je schématise beaucoup, un peu comme l'ont fait Lardreau et Jambé dans l'Ange, sur lequel nous repartons, selon qui le sexe est assez synonyme de pouvoir, et selon qui le pouvoir passera sans cesse au pouvoir, les révolutions idéologiques sont la fallacieuse, la révolution sexuelle, comme l'a dit publiquement Lacan, est un piège à con, par conséquent, cette interprétation correcte du marxisme n'est pas l'opium normalisant de la psychanalyse des États-Unis, mais c'est au contraire une acceptation en quelque sorte nue et crue d'un véritable désespoir politique que ne peut briser à ce moment-là qu'une révolte qui ne soit ni psychique, ni psychanalytique elle-même, ni surtout philosophique, systématique, idéologique, et une révolte à l'origine de laquelle certains, dont je suis, mais je pense aussi à Lardreau et Jean Médelange, sont allés chercher une transcendance. Donc, voilà une différence entre nous. Votre interprétation
de mai... Pour moi, attendez. Oui, je n'ai pas terminé tout à fait. Pour moi, d'abord, pessimisme et optimisme ne sont pas forcément contradictoires. N'est-ce pas? Il y a un très beau mot de d'un marxiste important dont on parle de plus en plus, il s'appelle Gramsci, comme vous savez,
oui.
Et qui a dit, bon, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. C'est une belle formule. Donc on peut très bien imaginer que, même en étant parfaitement pessimiste, sur le fait que l'animal parlant,
oui.
L'animal humain, est soumis à certaines limites quant à sa structuration, il n'y a pas de doute qu'on peut quand même, d'une certaine façon, envisager une politique qui serait plus lucide qu'une autre politique. En tout cas,
je ne vois pas
rien n'a démenti.
Je ne vois pas quel peut être le fondement d'une volonté contre structure et nature à la fois, vous comprenez. Non. L'énergie, parlons franc, l'énergie du désespoir suppose ontologiquement une possibilité d'espérance, quand même. Vous me l'accordez.
Rien n'a démenti, bien au contraire, le pessimisme de Freud.
Mais oui.
Rien, peut-être.
Rien n'a confirmé un optimisme volontariste.
Et rien n'a confirmé un optimisme volontariste, mais rien non plus n'a pu être construit sur à la fois ce pessimisme d'une connaissance et un optimisme de la pratique. Bon, parce que, encore une fois, c'est ma thèse, tout le monde s'est acharné à défigurer et enfouir ces deux vérités qui en sont pour moi.
Oui, mais achevez de définir ce qu'on a enfoui.
Ce qu'on a enfoui.
C'est-à-dire achevez votre interprétation de mai.
Ce qu'on a enfoui, c'est précisément ce qui, à mon avis, ressurgit en 68. 1. La révolte directe contre toute forme d'autorité et une mise en question immédiate, sans attendre, qui fait tache d'huile et qui, comme une étincelle, qui met le feu à la plaine.
Oui, 2. Traînée de poudre, là, oui.
Voilà. 2. La constitution de l'État. Et une sorte de réalisation immédiate, expérimentale, de cette toute puissance de l'État et de ce drainage des forces de la production et de la pensée vers le couvercle de l'État. Deuxièmement, le ressurgissement tout à fait extraordinaire en 68 de ce qui a passé pendant tout le XXe siècle, comme étant les anomalies, les écarts, les choses qui étaient secondaires dans la culture et dans la civilisation.
Les aberrances, les déviances, les utopies.
Ce qui a été défini comme aberration, voilà. Déviation et utopie. Ce qui a été défini comme dégénérescence par les fascistes, comme dégénérescence par les staliniens, et qui a ressurgi en plein cœur de Paris pour le coup,
oui.
Sur les murs, et dans les bouches, et sur les choses qui étaient écrites et collées au mur.
Et qui reste encore de nos jours, mais rejetées dans les marges. D'où le mot de marginal, c'est bien cela.
Je suis en train de dire que justement la conjuration, on veut remarginaliser ce qui est le centre même de notre culture.
Voilà.
Monsieur, il vous reste à peu près une minute et demie.
Alors, une minute et demie pour dire mon interprétation. À moi, je ne peux pas, il faudrait peut-être la remettre en tête.
Du
prochain débat. Simplement, ma critique de Solers ne sera pas une critique pour aujourd'hui. Elle consistera à dire que c'est une interprétation philosophique qui se tient très bien, qui fait appel à une systématique freudienne, marxiste, freudo-marxiste, c'est-à-dire que, au fond, il est beaucoup plus philosophe que moi. Mon interprétation fut-elle philosophique ? Non, pas tellement. Je me suis défini dans mon dernier livre, et finalement, ça me semble pas trop mal. Ce n'est ni trop prétentieux, ni trop modeste, comme un journaliste transcendantal. C'est-à-dire comme quelqu'un qui voit l'instant, intuitionne l'instant, et croit découvrir derrière quelque chose de plus fondamental et d'originel. Avec ce que j'appelle un pinceau, comme on dit au cinéma, un pinceau de projecteur, avec un pinceau très étroit, très limité à l'instant. Et alors, mais ce fut pour moi une série d'instants. Mais d'instant qu'en vertu de ma formation, je ne le cache pas aujourd'hui, en vertu de ma conversion et du jugement que ma conversion me faisait porter sur mon temps, j'ai essayé d'approfondir et j'ai cru en prise directe sur l'événement. Seulement, vous comprenez, c'est beaucoup plus modeste que la philosophie, encore que cela puisse inclure, n'oubliez pas que je suis kantien, une critique de toute philosophie possible, y compris une critique radicale de la possibilité même des systèmes dont vous vous réclamez pour interpréter mais. Alors ce sera peut-être là l'objet de notre débat.
Sleeps out in the rain.
Maurice Clavel, demain nous commencerons notre émission donc par reprendre cette interprétation de mai 68. Ensuite nous aborderons le thème même du sujet, c'est-à-dire la crise du marxisme. Je constate, et je pense que vous aurez pu tous constater comme moi, que deux grands intellectuels peuvent s'écouter et peuvent se répondre au lieu de poursuivre des cheminements parallèles. Et ce sera peut-être pas le moindre des résultats de cette série. Merci d'être avec nous et à demain.
C'était Mémorable, face à face Maurice Clavel, Philippe Solers en 1976, animé par Jacques Pogam. Demain, deuxième entretien, la crise du marxisme. France Culture. Vous écoutez France Culture. France Culture présente 29 Palms, le nouveau film de Bruno Dumont. Il est photographe en repérage. Elle l'accompagne. Ensemble, ils vont parcourir le désert californien aux abords de 29 Palms. Y faire l'amour, se haïr, sans se douter que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes. 29 Palms de Bruno Dumont. En salle le 17 septembre, à retrouver dans les émissions de France Culture. Interdit au moins de 16 ans. France Culture vous invite à l'avant-première de ce film, mardi 16 septembre à 20h. Vos invitations au 08 92 68 10 99.